Ce week-end, juilletistes et haussiens vont se croiser pour la grande migration estivale. Selon l'INSEE, 6 Français sur 10 partent chaque année à cette période. Mais par quels moyens ? Encore quelques chiffres. Près de 3 quarts vont préférer la voiture et 14% le train. L'avion avec 8%, l'autocar avec 1,7% et le bateau, un tout petit 0,5%, sont beaucoup plus anecdotiques. La voiture et la route restent donc largement au cœur de ce qu'on appelle désormais les mobilités. Ce terme, mobilité, est intéressant car l'action de se déplacer devient avec lui un fait social. La mobilité, c'est une affaire de transport, mais pas seulement. Ou plutôt, les moyens choisis pour se déplacer sont de formidables entrées pour poser des questions beaucoup plus vastes, les enjeux politiques, économiques, écologiques, mais aussi les questions de travail, de loisirs, d'éducation, de santé, parfois même de liberté et même d'égalité. Mobilité, un enjeu de société, c'est notre sujet du jour. Et 4 invités pour en parler. 3 ici en studio à Paris. Mathieu Flouneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste, ça tombe bien, de l'histoire des mobilités. 2 ouvrages à citer sur cette question. Choc des mobilités, c'est chez Descartes et compagnie, un livre que vous avez dirigé dans la collection Culture Mobile.
Avec Arnaud Passala, quoi.
Et co-auteur avec Jean-Pierre Orfeuille de Vive la route, vive la République aux éditions de l'Aube. Christophe Gay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Forum Vie Mobile. Alors, le Forum Vie Mobile, c'est un think tank sur les mobilités qui est soutenu largement par la SNCF. À côté de vous, Verena Despous, bonsoir. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de Blablacar. Blablacar, le leader du covoiturage en France et en duplex depuis Aix, le sociologue Jean Viard. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche associé au CEVIPOF. On peut citer plusieurs ouvrages de vous sur cette question. Éloge de la mobilité, c'était en 2006 aux éditions de l'Aube. Le triomphe d'une utopie, vacances, loisirs, voyages, c'est beaucoup plus récent sur cette révolution des temps libres également aux éditions de l'Aube. Donc écoutez, tous les 4, peut-être un premier tour de table, mais je me tourne d'abord vers vous, Mathieu Flouneau. En 1936, il y a 80 ans, sont donc les premiers congés payés. On sait que les départs massifs, c'est plutôt un an après, en 1937. À l'époque, on privilégie le vélo, le train, la proximité. À quoi ça ressemble aujourd'hui le départ en vacances des Français ?
Alors indiscutablement, l'image qui domine de 1936 et de l'invention des congés payés n'est pas associée à l'automobile, alors qu'aujourd'hui elle l'est largement, et elle l'est avec une trace majeure qui est celle de l'héritage des Trente Glorieuses. Et c'est pendant les Trente Glorieuses véritablement qu'il y a eu automobilisation de ces congés. Alors la nature même des congés a changé, ceci Jean Viard l'expliquera bien, parce que il y a désormais des courts séjours, il y a désormais toute l'année des formes de congés. Et donc s'il y a une spécificité quand même juilletiste et haussienne, elle est à relativiser tout au long de l'année. Et comme vous l'avez très bien rappelé, il n'y a que 6 Français sur 10 qui partent en vacances. Donc c'est aussi quelque chose là à prendre en considération. Et dans cette perspective, l'automobile est un fait relativement récent, un fait aussi relativement daté, des Trente Glorieuses. Et je me permets, vous avez cité 2 livres, il y en a un troisième qui arrive qui parle justement de l'automobile au temps des Trente Glorieuses.
Je n'allais pas faire toute votre bibliographie, Mathieu Flouneau. Jean Viard, sur ce que vient de dire Mathieu Flouneau, et sur peut-être cette première carte postale, je me permets ce petit jeu de mots, cette première carte postale de la façon dont les Français partent en vacances ou en week-end d'ailleurs.
Mais on peut dire, on peut dire qu'avant il y avait des sédentaires qui ont ouvert une fenêtre et ils sont partis petit à petit des années 30 jusqu'aux années 60, quoi. Et aujourd'hui, au fond, on est des êtres profondément mobiles. On fait en moyenne à peu près 50 km par jour et par Français. Enfin, les chiffres peuvent se discuter, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc, au fond, on monte dans sa voiture tous les jours, pour la plupart d'entre nous. On se déplace, on change de quartier, on travaille pas dans la commune où on habite, on part en week-end. Donc, en fait, on est devenu des êtres mobiles dans une culture de la mobilité. Je crois que c'est ça qui a fondamentalement changé, même si les lieux, les pratiques, la mer, les maisons de famille, etc., ce sont des inventions du début du siècle. Donc tout ça, c'est construit lentement. Mais c'est cette culture de la mobilité, avec du coup aussi ceux qui ne sont absolument pas mobiles, ceux qui ne partent pas en vacances du tout, jamais, qui sont très profondément exclus de cette société, bien sûr.
Christophe Gay.
Oui, alors, pour aller dans le sens de ce que vient d'indiquer Jean Viard, nous, il nous semble qu'un élément vraiment caractéristique de nos modes de vie, c'est effectivement qu'ils sont organisés à travers les mobilités. Et ces mobilités, aujourd'hui, elles sont caractérisées à la fois par le fait qu'elles sont 90% propulsées par le pétrole, et en même temps qu'elles sont caractérisées par la vitesse, et que ça a permis une transformation, un éclatement spatial de nos vies. Ça a aussi permis une très forte intensification des vies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une augmentation du temps libre, mais il y a une augmentation encore plus importante des activités auxquelles on peut se livrer. Et ça concerne aussi la question des vacances. Et donc aujourd'hui, on est dans une sorte d'intensification, une hybridation de nos vacances qui sont parfois même un petit peu fatigantes.
J'aimerais qu'on reste tout de même un petit peu sur avant de ça fait rire Jean-Vier. J'aimerais qu'on reste quand même un petit peu sur ces moyens de la mobilité avant d'aller vers la façon dont ces nouvelles mobilités transforment nos modes de vie. Avec vous Verena Despous, dont je rappelle porte-parole de Blablacar. Évidemment Blablacar, c'est donc cette plateforme qui permet de mettre en relation des gens qui veulent utiliser le covoiturage. Ça concerne pas seulement les vacances. D'ailleurs, c'est quoi le trajet moyen sur Blablacar?
Le trajet moyen est de 330 km.
Donc, c'est quand même plutôt pour les vacances. On parle pas du quotidien et du travail.
Tout à fait. En fait, Blablacar est une plateforme de covoiturage pour le covoiturage longue distance. Donc, on fait essentiellement, on permet à des passagers de rejoindre des conducteurs qui se déplacent pour aller d'un trajet de ville à ville. Et d'ailleurs, les moments chauds aussi de l'été, on voit un pic de plus de 40% sur notre plateforme par rapport à l'utilisation habituel.
Et alors, est-ce qu'il y a pour vous, Blablacar, on parle souvent de la disruption dans cette net économie, c'est une façon de venir transformer un petit peu un secteur, là en l'occurrence le transport, la mobilité, un secteur bien établi. Est-ce que vous arrivez, vous, avec, vous estimez, une nouvelle proposition, une nouvelle façon de voyager véritablement?
Oui, alors bon, d'abord, ce que c'est le covoiturage, c'est l'optimisation d'un actif sous-utilisé. La voiture est utilisée au moins de 3% de son temps, finalement, pour des trajets, alors qu'au quotidien, en réalité, elle nous coûte très cher. Ça coûte en moyenne 5 000 euros par an si on prend tous les frais associés à la voiture. Si on considère qu'il y a à peu près 38 millions, je crois, de voitures en France, ça fait 200 milliards, soit quasiment 10% de notre PIB, qui est alloué à une ressource qu'on utilise moins de 3% du temps. Et quand on l'utilise, il n'y a quasiment qu'une personne en voiture. Donc là, on parle vraiment d'un actif sous-utilisé avec un immense potentiel de partage. Et dès lors qu'on débloque ce potentiel de partage, ça crée une nouvelle solution de mobilité qui, du coup, est abordable puisqu'on parle de partage de frais. On parle d'un conducteur qui faisait un déplacement pour son propre compte et qui, au lieu de le faire seul, va le faire avec des passagers avec qui il va partager les frais de son déplacement. Donc ça crée une solution de mobilité pour les passagers qui est très abordable.
Mathieu Flonneau, la route en règle générale, la voiture évidemment, mais aussi on peut parler des autocars par exemple, avec cette loi Macron qui a maintenant un an et dont ce qu'on retient principalement, ce sont les cars Macron, c'est-à-dire la possibilité, la libéralisation des trajets en car. La route, ça reste l'élément central aujourd'hui de la mobilité.
Et complètement. On parle là d'une infrastructure, on parle pas d'un mode, on parle de quelque chose qui est susceptible de recevoir de multiples usages, qui est très résilient, qui de surcroît est très flexible, par capillarité s'immerge dans tous les territoires. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a des questions d'égalité, de desserte, et la route aujourd'hui en France, et c'est un des enjeux problématiques à venir, puisqu'il s'agit de la financer également, c'est-à-dire que les systèmes comme Blablacar utilisent une infrastructure, et donc ce financement de l'infrastructure, il faut y réfléchir, et il y a là des données qui, dans les grands équilibres mobilitaires de transition, avenir, présent, par rapport aux sources d'énergie, des questions très très préoccupantes pour l'avenir, risquent de ne pas pouvoir être maintenues à ce niveau. Donc on parle véritablement de quelque chose qui a apporté une mobilité, et personne ne reviendrait dessus, une mobilité accrue, Jean-Vier l'a dit. Aujourd'hui, le sujet, il est mobile, mais c'est une construction historique et patrimoniale. Et cette dimension-là, il faut la vraiment garder à l'esprit. Elle ne tombe pas du ciel, il s'agit de l'entretenir, il s'agit de réfléchir éventuellement à son optimisation, à son amélioration.
Jean-Vier ?
Ben, si vous voulez, je crois que dans notre société, on a associé finalement mobilité et liberté, on pourrait le dire comme ça. Parce que la mobilité, bien sûr qu'on mesure des kilomètres. Blablacar, on peut dire, je crois qu'ils font 2 millions de passagers par mois, etc. C'était un processus gigantesque dans une mobilité générale. Mais cette mobilité, elle est politique, elle est, 10% des Français déménagent tous les ans, on fait 8 fois plus l'amour que nos grands-parents, etc. On zappe. On est dans une culture de la vitesse et du zapping. Avec certains qui ratent la marche, mais regardons quand même le cœur. Et comprenons ça, 53% des Français ont un jardin, par exemple. Donc la vraie vie, c'est que la moitié des gens habitent à côté de ce qu'était la ville dense d'il y a 50 ans. Donc, si vous voulez, on a complètement transformé nos modes de vie. On a fait rentrer, moi je dis souvent, on a mélangé Haussmann et Club Med, quoi. Moi, Paris-Plage, ça me fascine, quoi. Des millions de gens qui vont se mettre près d'une rivière polluée et qui sont tout contents alors qu'ils peuvent pas se baigner. C'est quand même extraordinaire, on n'aurait pas cru. Donc c'est ça, il faut comprendre ce mouvement, après qu'il faille le réguler, etc. Mais d'abord, le comprendre et comprendre que on est tous très attachés parce que c'est un indicateur fondamental de liberté. Et que c'est devenu ça, si vous voulez. Donc c'est vraiment une culture qui a complètement changé de nature et qui est aussi à rapprocher d'une chose qui me semble importante, c'est qu'on ne passe plus que 10% de notre temps à travailler, ce qui est la moyenne en Europe, hein, sur une vie ou dans une ville. Moi, j'ai été élu local, je sais que je disais souvent à mes collègues, attention, 90% de nos électeurs, du temps de nos électeurs n'est pas consacré au travail. Et donc, pensez-les comme ça, comme des individus qui se déplacent, qui vont voir la télé, qui sortent, qui vont en course, qui vont marcher dans la rue, qui vont à la campagne, qui vont en vacances. Et si vous voulez, si on comprend la société comme ça, et si on se bat pour la démocratisation des mobilités, à ce moment-là, on a fait un pas vers la société qui est en train de naître.
Vérena Despous.
Oui, tout à fait. Et pour rebondir là-dessus, on voit que, en fait, même dans la voiture, lors d'un covoiturage, ça devient un espace d'interaction sociale très riche. Et le covoiturage permet à des gens qui se seraient jamais croisés autrement de partager une expérience, de partager quelques heures ensemble. Et ce qu'on observe chez nos membres, donc les membres de la communauté de covoitureurs, c'est qu'ils déclarent rejoindre la communauté la première fois pour des raisons financières, mais finalement y rester car ils apprécient l'expérience sociale qui est enrichissante.
Et sur ce point, on réinvente finalement l'automobile. Et ceci est très intéressant parce que Blablacar est une société qui joue sur cette convivialité automobile qui existait déjà au temps de l'autostop. Donc on est là dans une logique forte de résilience du mode.
Christophe Gay, alors vous n'êtes pas nécessairement un spécialiste des modes de transport. Vous, votre think tank qui s'intéresse véritablement à la façon dont on utilise ces modes pour transformer notre mode de vie en règle générale. Malgré tout, on le voit depuis le début de cette émission, on parle exclusivement de la voiture qui n'a pas toujours, ces dernières années, été d'ailleurs en odeur de sainteté, puisque les questions écologiques, évidemment, les questions, on va dire aussi d'accès, la possibilité d'accéder à un moyen de transport particulier, une voiture n'est pas toujours évident, on y reviendra au cours de cette émission. Comment est-ce que vous entendez ce qui est dit là? Est-ce qu'il ne faut parler que de la voiture quand on parle de mobilité? Est-ce qu'il ne faut pas s'intéresser aussi un peu au train, aux autres moyens, l'avion?
Alors, ce qui est clair, c'est que malgré tout, comme ça l'a déjà été dit, la voiture reste le mode dominant et elle est au cœur de nos mobilités. Même l'avion aujourd'hui se développe énormément et on lui promet un avenir fantastique. Le train occupe une part non négligeable, en particulier pour les déplacements, les grands départs de vacances qui nous occupent en partie aujourd'hui. Et certainement, sans le train, les routes seraient complètement congestionnées, en tous les cas dans les grandes métropoles. Mais en tous les cas, ce que je pense nécessaire d'indiquer, parce que c'est que ce système socio-technique finalement organisé autour des déplacements fondés sur le pétrole sont quand même une source de problèmes pour l'avenir. La question écologique, on ne peut pas la laisser de côté aujourd'hui. C'est à la fois la question du changement climatique, hein. C'est à la fois la question de la congestion et de la pollution. La voiture y contribue largement, mais pas exclusivement, mais elle y contribue largement. Donc on ne peut pas faire comme si demain, nos modes de vie continueront à fonctionner sur les mêmes types de mobilité qu'aujourd'hui. Par ailleurs, on a beaucoup parlé à juste titre d'ailleurs, de la mobilité comme une source de liberté. Hein, le regretté François Hacher parlait du droit de tous les droits, celui qui permet d'accéder à la santé, au travail, aux loisirs, etc. Mais ce qui est vrai aussi aujourd'hui, c'est que la mobilité peut être une source de fatigue, voire d'aliénation. Il y a même une injonction à la mobilité, une injonction à se déplacer. Il y a des politiques qui sont fondées sur l'idée qu'on doit se déplacer plus. Et donc au Forum Vie Mobile, nous, on s'est créé autour de l'idée qu'il fallait à la fois penser un futur de nos modes de vie qui soit à la fois plus soutenable, mais aussi plus désirable. Voilà, et je vais peut-être pas enchaîner tout de suite là-dessus, mais en tout cas, on vient de mener une très grande enquête dans 6 pays où on s'est intéressé justement aux aspirations pour les modes de vie du futur, pour soi-même et pour ses enfants. Et on voit des choses quand même très très intéressantes sur cette question du rapport au mode de vie et à la mobilité.
Oui, Christophe Gay, on y reviendra un peu plus loin dans cette émission, puisque si on parle mobilité, il faut aussi parler volonté de sédentarisme, peut-être des néo-sédentaires qui, grâce aux nouveaux moyens de communication, peuvent se permettre de rester un petit peu plus dans leur environnement et peut-être de moins se déplacer. Mais je voudrais quand même vous entendre, Mathieu Flonneau, sur ces enjeux à la fois économiques et écologiques. Quelqu'un que vous connaissez bien, Jean-Pierre Orfeuille, qui est économiste, avec qui vous avez créé un livre. Voyez 3 limites finalement à la mobilité. La limite écologique, voilà, la mobilité est dépendante des ressources, et notamment des ressources en pétrole, des énergies fossiles, on l'a dit. La limite économique, les personnes les plus pauvres n'ont pas forcément accès à la mobilité et les limites physiques, c'est-à-dire la capacité soit des réseaux d'accueillir cette mobilité, soit des villes, puisque souvent, ou même de la mer en été, n'ont pas forcément la capacité d'accueillir tous ces flux. Sur ces limites finalement qui sont aujourd'hui celles posées à la mobilité, et notamment la limite écologique.
Ah mais Jean-Pierre Orfeuille a révélé là des évidences, effectivement, et puis ça a été relié, ce propos. C'est-à-dire que, naturellement, ce mode de vie n'est pas soutenable. Néanmoins, il est désiré. Et donc, on peut s'inscrire dans une transition idéale, dans un monde qui refuse les peuples, dans un monde qui refuse les comportements. Toutefois, cela laisse place à des retours de bâton, des retours de réel qui peuvent parfois prendre l'allure de populisme. J'attire l'attention sur le sous-titre de l'ouvrage que j'ai écrit avec Jean-Pierre Orfeuille, qui s'appelle « Vive la route, mais vive la République surtout ». Et de ce point de vue-là, il y a des enjeux évidemment égalitaires, vous l'avez dit, des enjeux politiques très forts, des enjeux qui sont de choix d'investissement. Le choix de l'investissement dans le transport public, il a un coût également, il répond à des pressions également. Bref, il y a là des enjeux modaux qui doivent finalement poser la question de la pertinence des modes. Et il est évident qu'à certains endroits, l'automobile est purement et simplement impertinente. Les centres-villes le démontrent, mais les centres-villes européens, les centres-villes qui ont des transports publics très largement à disposition. La réflexion, elle doit être globale, en même temps que locale, c'est-à-dire lier le local et le global. C'est très tendu. Ce qui est certain, c'est que les sociétés occidentales sont parvenues à un degré de mobilité tel, avec les agréments et les aménités tels qui y sont liés, que désormais, il est difficile d'envisager une mobilité dégradée. Et cette mobilité dégradée, c'est pourtant, à certains égards, ce qui nous attend avec certitude.
Jean Viard, pas soutenable, mais désirée, nous dit Mathieu Flonneau, la mobilité telle qu'elle se présente aujourd'hui.
Désiré, et puis il faut voir que on a changé de perspective. Regardez les milieux populaires. Depuis 50 ans, leur projet, c'est une maison phénix, j'allais dire, en périurbain avec deux petits diesels pour aller travailler. Et les gens se sont battus pour ça, les ouvriers, les petits fonctionnaires. Et au moment où ils arrivent à ce projet de vie, d'un coup, on leur dit toute la journée, mais non, il faut aller à pied, c'est pas écolo votre truc. Bon, c'est vrai que c'est pas écolo leur truc, sauf que pendant 30 ans, on leur a prêté de l'argent pour qu'ils aient ces deux diesels et la maison avec jardin en périurbain. Urbanité. Et donc maintenant, c'est pas un hasard d'ailleurs s'ils votent pour des partis extrémistes qui leur disent mais non, la voiture c'est très bien. C'est vrai que on les a aidés à construire ce mode de vie. Alors on change de perspective, il faut aussi écouter l'histoire des milieux populaires qu'on a envoyés dans cette aventure. Donc on peut pas changer du jour au lendemain, c'est ça que je veux dire, parce que sinon les milieux populaires se sentent complètement rejetés par l'appel écologique. Ce qui est absurde parce qu'il est évident que l'appel écologique est au centre de toutes ces questions. Après, autre chose, Blablacar, c'est très écolo. Parce qu'on fait rouler des voitures qui roulaient déjà, simplement on les remplit. Et d'un coup, on va en fabriquer moins. J'avais une étude, c'est par million qu'à terme, on va fabriquer des voitures en moins avec ce genre de modèle. Ça veut dire que, en inventant du lien, en inventant des progrès techniques, peut-être aussi en articulant autrement le numérique et le réel. Moi, je travaille beaucoup avec des grandes entreprises qui construisent la ville. Comment on fait des open stores dans les pieds d'immeubles pour que les gens, un ou deux jours par semaine, ils aillent pas à leur bureau, ils travaillent à côté de chez eux, pas chez eux. Donc, vous voyez, il y a toutes ces télescopages du réel et du numérique, de la longueur d'ici, jours, etc. Il faut les construire dans un projet. Mais il faut faire attention de ne pas exclure les milieux populaires qui ont réussi leur vie avec ce modèle antérieur. Et bien sûr qu'il faut le faire évoluer, et je suis bien d'accord là-dessus. Mais n'oublions pas les gens qui ne peuvent pas évoluer à la vitesse ou les élites urbaines qui sont dans les villes, qui prennent le tramway, etc. Et dernière chose, une des choses qui progresse le plus dans la ville, c'est la marche à pied. Donc, il faut aussi ne jamais oublier ça, c'est-à-dire que la ville est un univers du piéton. En Ile-de-France, je crois qu'il y a presque la moitié des gens qui vont travailler à pied. Donc, il y a aussi cette ville-là qui est importante. Il faut avoir tous les éléments dans la tête, quoi.
Verena Despousse, Jean Viard parle du côté écolo du covoiturage. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu un débat puisqu'on dit il y a évidemment économie d'émissions de gaz à effet de serre puisque on sort de la voiture pour une seule personne dans sa voiture, on est plusieurs dans une voiture. Voilà, ça paraît évident. Malgré tout, on dit aussi que les gens, résultat, bougent plus, ils utilisent plus la voiture ou ils la préfèrent autrement. On arrive à mesurer véritablement l'impact écologique du covoiturage aujourd'hui.
Je pense qu'il faut voir deux choses.
Ou de la promesse peut-être.
D'ailleurs. C'est ça en fait, il y a l'impact aujourd'hui. Nous on estime d'avoir évité à peu près 1 million de tonnes de CO2 sur les derniers 12 mois dans l'ensemble de notre activité. Mais il y a surtout l'impact à long terme, je dirais, du changement des usages, du changement comportemental. Quand que BlaBlaCar a été créé, l'idée de partager un trajet avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas semblait peut-être réservée à une population très limitée. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment étendu à l'ensemble de la population. L'âge moyen sur BlaBlaCar, il est de 35 ans. On a 70% d'actifs professionnels, on a, c'est plus quelque chose qui est réservé, disons, aux étudiants, et ça c'est vraiment, l'usage s'est étalé. Et ça c'est très important parce qu'il s'est étalé à travers, disons, toutes les strates de la société, que ce soit générationnel, que ce soit culturel, que ce soit économique et social, et avec un maillage très fin à travers le territoire. Donc quand on parlait aussi de l'aspect peut-être province par rapport aux grandes villes, la couverture du territoire fait que c'est pertinent pour tout le monde.
Christophe Guay, cette dimension écologique ou non du moyen de transport, de l'accès à la mobilité, est-ce qu'on arrive à mesurer la façon dont il pèse dans les choix des uns et des autres ? Parce que la mobilité est avant tout contrainte avant d'être un choix. Est-ce qu'on arrive à savoir un petit peu, selon vous, la façon dont ça se passe véritablement pour les Français dans leurs choix ou non ?
Alors, en fait, il faut certainement plutôt parler de... On n'est ni à la fois dans un déterminisme absolu... sauf peut-être dans certains types, dans certains territoires où effectivement il y a une dépendance encore quasiment exclusive à la voiture. Mais disons que de manière générale, on peut parler d'arrangement. Donc les gens font des arrangements en fonction à la fois de leur programme d'activité, c'est-à-dire de l'ensemble des éléments qui constituent une journée. Il va falloir aller chercher les enfants à l'école, faire les courses, ensuite rejoindre son travail, etc. Donc il y a des programmes d'activité comme ça qui conditionnent en partie les choix de mode de vie, puis bien entendu la nature de l'offre. Hein, donc j'évoquais les territoires où parfois on dépend exclusivement de la voiture. La question écologique, aujourd'hui, elle est sous-jacente, mais il est très probable qu'elle ne détermine les choix que d'une petite minorité en ce qui concerne la question écologique. Si vous me permettez, j'aimerais revenir sur un point qui a été abordé sur la question du désir pour le futur des modes de vie. Donc, parce que les résultats qu'on a obtenus dans la grande enquête que j'évoquais tout à l'heure ne vont pas nécessairement dans le sens de ce qui a été dit précédemment. Et ça nous paraît un point vraiment très, très fondamental. On a effectivement essayé de s'intéresser au désir pour le futur de 6 pays, à la fois pour les gens et pour leurs enfants. Donc, on est dans un futur relativement lointain. Et on s'est interrogé aussi sur la question de comment créer les conditions pour qu'ils nous répondent. On leur a donné une sorte de baguette magique en leur permettant finalement de se projeter dans leur mode de vie idéal. Et puis on a confronté ça aux enjeux environnementaux. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que 80% des gens aspirent à ralentir leur rythme de vie. Donc par rapport à la question que je commençais à évoquer tout à l'heure sur l'intensification des modes de vie, on voit qu'aujourd'hui, nos modes de vie sont devenus extrêmement fatigants. Et que tout le monde, tout pays confondu, hein, c'est une enquête qu'on a fait auprès de 12 000 personnes aux États-Unis, au Japon, en Turquie, en France, en Allemagne, en Espagne. Tout le monde, et le chiffre est à peu près le même, on est à 82% en France, aspire à ralentir. Et quand on demande aux gens quel est leur mode de vie idéal, il y en a 40% qui aspirent à vivre en proximité. Et quand je dis aspire à vivre en proximité, c'est-à-dire à avoir soit leur travail chez eux, soit dans le quartier où ils habitent. Donc en fait, ils veulent complètement renoncer. Ils aimeraient renoncer, ils aimeraient pouvoir renoncer idéalement à tout déplacement. Et pour ceux qui sont intéressés à continuer à se déplacer, qui aimeraient de meilleurs accès, il ne faudrait pas que ça dépasse une demi-heure. Donc en fait, sur cette question du désir, et j'ai aussi d'autres éléments si ça vous intéresse,
intéresse.
On constate que, eh bien, il y a une remise en cause de la mobilité comme valeur de liberté. Et je pense qu'il y a un lien à faire avec l'espèce d'aliénation qu'il y a derrière cette intensification de nos modes de vie.
Du grain à moudre d'été, Raphaël Bourgois.
Du grain à moudre d'été qui se pose la question des mobilités aujourd'hui, en ce week-end de départ en vacances. On a 4 invités, l'historien Mathieu Flonneau, Christophe Guay qui est directeur du forum Vie Mobile, Verena Despous, porte-parole de BlaBlaCar, et Jean Viard, sociologue. Alors, vous me permettez, avec votre dernière intervention, Christophe Guay, d'avancer un petit peu dans cette émission et justement de faire la distinction entre ce qui sont les mobilités choisies, celles des vacances, par exemple, et les mobilités contraintes, celles pour aller au travail, notamment, comme Vous venez de le dire, mais Mathieu Flonneau voulait réagir peut-être sur cette question. Voilà, différence entre mobilité choisie, mobilité contrainte aujourd'hui.
Oui, enfin, le dilemme pascalien est ancien. Ne pas sortir de sa chambre, l'homme a montré qu'il ne savait pas faire. Et de ce point de vue-là, on peut espérer effectivement une plus grande densification des villes, une cessation des mobilités. Mais enfin, l'historien que je suis n'a pas d'exemple dans l'histoire, en dehors de périodes de guerre, qu'on ne peut pas...
Souhaiter,
en dehors de périodes de restrictions intenses, d'une contraction des mobilités. Donc par rapport à cette explosion qui a été soulignée à plusieurs reprises dans l'émission, il y a des éléments, et je dirais qu'il faut faire au moins mauvais. Et le meilleur, parfois, est l'ennemi du bien. Donc on est dans des logiques de tension qui font que le choix modal reste une préoccupation. Et je veux dire que l'archaïsation qui a souvent été pratiquée du mode automobile n'est pas censé, n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il y a là des éléments qu'il s'agit de prendre en considération sur le choix, justement, d'un départ en automobile. Je ne sais pas si les ambassadeurs Blablacar autorisent tous à ouvrir la fenêtre, par exemple, pour ressentir des sensations qui sont celles de l'objet sensationnel qu'est l'automobile. Et on m'expliquera tout ce que l'on veut, mais il y a des promiscuités, il y a des éléments qui sont associés à des modes peut-être plus vertueux et écologiques, mais enfin, la chaîne doit être considérée tout entière. Il y a des considérations à avoir sur la valeur intrinsèque qualitative. Et effectivement, là, on peut se permettre de réfléchir à une contraction quantitative des mobilités. Mais en termes qualitatifs, vous dépasserez difficilement. Alors, je les mets dans l'ordre. La marche à pied, la déambulation du flâneur, le vélo qui conserve des avantages. Mais enfin, dès qu'il y a quelque chose à transporter, ça sera quand même à 4
euros. Pour faire 350 km, c'est vrai qu'il faut avoir de bons mollets. Jean Viard, je voulais quand même vous entendre sur un terme important qu'a prononcé Christophe Guay, c'est celui de rythme. La nécessité ou la volonté des gens de baisser le rythme.
Oui, alors c'est compliqué parce que c'est vrai que c'est ce qu'ils disent. Bon, après, en même temps, ils veulent massivement habiter dans des maisons avec jardin ou alors avoir deux maisons. Hein, puis c'est quand même le modèle dominant. Il y a la majorité des gens ont une maison avec jardin et il y en a à peu près 20 ou 25% qui ont deux maisons à eux ou à leurs parents. Donc vous prenez que ça. Si la ville dense, au fond, qui serait la plus fonctionnelle, on descend d'un métro, etc. Au fond, le modèle parisien, si on peut dire des choses comme ça, pas de l'Île-de-France, de Paris, concrètement, c'est pas non plus ça que les gens veulent. Ce qu'ils veulent, c'est des maisons qui sont, au fond, la Haussmann plus le Club Med, mais chez moi, quoi, avec un petit point d'eau, un chien, une petite barrière, un arbre que j'ai planté moi-même, etc. C'est-à-dire, et c'est important, ces choses, hein, voir la nature pousser, etc. Et donc, c'est ça qu'ils veulent. Alors, bien sûr, en même temps, les gens, ils sont biactifs, dans des couples biactifs, où en moyenne, on change d'emploi tous les 10 ans. C'est une moyenne statistique, c'est un peu idiot, il y en a qui changent jamais, etc. Mais ça veut dire, comme on est biactif, ben, on peut difficilement habiter à côté de son travail si on en change tous les 10 ans et si le conjoint travaille aussi. C'était un peu le rêve quand la dame était à la maison, le monsieur, on pouvait mettre la maison à côté du travail du monsieur. Ça devient de plus en plus compliqué, surtout qu'on change de conjoint quand même assez régulièrement. Donc, c'est pour dire, si je prends ces chiffres comme ça, c'est pour dire que la discontinuité de nos vies, je crois qu'elle est devenue fondateur de la modernité.
Mais en entendant vos propos, la complexité de comprendre ces phénomènes. Mais allez-y, je vous en prie, qu'est-ce qui vous frappe?
Oui, non, mais je voulais dire une chose, c'est qu'on a gagné 20 ans d'espérance de vie depuis la guerre. Et plus la vie est longue, plus on la vit par séquences courtes. Et moi, c'est ce paradoxe qui m'intéresse. C'est-à-dire que on ne fait pas 20 ans de plus la même chose, on n'est pas dans le lit avec la même personne, au même emploi, dans la même maison. La vie s'est allongée.
Cette accélération des rythmes, en définitive.
Non, mais on peut en permanence retenter sa chance. Et en permanence, il y en a qui ne peuvent pas. Mais la majorité de la société peut retenter sa chance en travail, en déménagement. Il y a 10% des Français déménagent tous les ans, etc. Donc, on est là-dedans. Et c'est pour ça qu'on a ce sentiment de liberté. Et en même temps, ça apparaît comme une contrainte, parce que le type qui a épousé sa voisine à 18 ans, et qui est toujours avec lui à 70 ans, et qui tient la même crèmerie, il fait ringard. Donc, il y a une norme de la mobilité, de la discontinuité. Et alors, les gens réagissent contre ça. Mais sur le fond, le mener des vies discontinues et l'essayer de démocratiser la discontinuité me semble quand même un projet politique. Et il ne faut pas mélanger, il faut lutter contre la pollution et pas contre l'automobile. Ça, je voudrais le dire quand même, on l'a dit déjà, mais c'est important. L'ennemi, c'est la pollution, c'est pas l'automobile.
À force de défendre la voiture comme ça, je pense que je vais recevoir un certain nombre de mails. Mais peut-être, Christophe Guay, vous allez venir à mon secours. J'ai cru entendre tout à l'heure que vous n'étiez pas forcément fervent partisan de la voiture. En tout cas, peut-être pas autant que nos deux autres invités.
Non, moi, j'ai rien contre la voiture, dont je reconnais la place absolument centrale. Mais ce qui est clair aussi, c'est que la voiture, telle qu'on l'a évoquée, elle pose aujourd'hui un problème majeur. Elle est une des sources absolument centrales des émissions de gaz à effet de serre, de pollution.
Ça a été reconnu.
Donc c'est simplement pour rappeler qu'on est face à un système sociotechnique, parce que ça, comme le disait Mathieu Flenou tout à l'heure, ça engage une industrie, ça engage des infrastructures, en fait, et ça engage du coup aussi une certaine forme de dépendance à des solutions qu'on a trouvées historiquement à travers la voiture et qui conditionnent encore nos modes de vie. Nous, ce qu'on dit au Forum, c'est qu'il est nécessaire de s'interroger sur la place dominante de ce système sociotechnique. Et ce qu'on dit aussi à travers les études qu'on mène, c'est qu'on voit qu'en réalité, le rapport à la voiture change. On a toujours dans le cadre de notre enquête, on a fait une typologie pour essayer de comprendre la manière dont les gens envisageaient leur mode de vie idéal en rapport avec les modes, en rapport avec la question du ralentissement. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a simplement 26% des gens en France, 20% dans les autres pays, qui sont vraiment attachés à la voiture et qui sont réticents à l'usage d'autres modes. 20%. Ça ne veut pas dire que les autres ne continueront pas à utiliser la voiture, mais ça veut dire encore que certains ne le feront plus du tout. On a des marcheurs connectés qui vont privilégier la démobilité, la marche à pied, le vélo, le télétravail, la déconnexion. On a des décélérateurs, 10% de décélérateurs. On a des adeptes du réseau des transports collectifs. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, la voiture n'est plus nécessairement, dans un mode de vie idéal, quelque chose auquel on aspire. On a également mené une enquête aujourd'hui, en France, à Lyon, à Grenoble et au Canada, pour essayer de comprendre ce qu'il en était du phénomène de baisse de passage du permis de conduire. On constate, d'une part, que ce phénomène existe. Il est même important depuis les années 2000. Hein. Il était constaté dans tous les pays, y compris aux USA, par exemple. Donc, baisse de la possession du permis de conduire. Et qu'est-ce qu'on constate auprès des, en particulier des jeunes, mais des jeunes entre 15 et 34 ans hein. On constate qu'en fait, on continuera de passer un peu le permis de conduire parce que c'est une compétence qui peut être activée, mais ça ne veut pas dire possession de la voiture et ça ne veut pas dire aussi usage de la voiture traditionnelle. Et la voiture, pour ces gens-là, n'est plus le synonyme de la liberté et de l'émancipation, sauf pour certaines catégories, comme les jeunes femmes issues de milieux populaires, dont la mère n'a pas accès au volant. Donc il y a quand même quelque chose qui est en train de se transformer aujourd'hui dans le rapport à la voiture, et pour le futur, et ici et maintenant.
Bernard Despousse.
Alors, je voudrais rebondir sur deux choses. D'abord, sur le premier commentaire, je pense que la technologie aujourd'hui, elle permet de faciliter l'expérience de la voiture. Et quand on voit que depuis une application sur notre portable, sur notre smartphone, on peut décider de partir quasiment instantanément sur un trajet longue distance. Par exemple, un vendredi soir de Paris, chaque minute, il y a quasiment 13 départs, je crois, avec plus de 500 points de départ dans Paris. Donc le départ est facilité, il n'est pas plus cher à la dernière minute. Ce sentiment de liberté, en fait, est redonné par la technologie, de un. De deux, le lien social est renforcé par l'expérience dans la voiture, comme nous le disions auparavant. Donc il y a aussi, l'expérience de la voiture peut aussi être améliorée finalement par ces nouvelles technologies et cette nouvelle mise en réseau de particuliers qui souhaitent partager non seulement leur actif mais une expérience ensemble. Ensuite, pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à l'usage, nous évidemment, nous faisons partie de quelque part de cette mouvance, de cette tendance qui va vers plus d'usage et moins de propriété, puisqu'on partage un actif, donc on n'a plus besoin d'en être le propriétaire pour l'utiliser. Mais ce qu'on remarque, en fait, c'est que c'est surtout les jeunes qui, effectivement, repoussent la date du permis de conduire et donc de l'achat potentiel d'une voiture. Mais dès que on rentre dans une logique de famille et de déplacement extra-urbain, la voiture reprend tout son sens. Donc je pense que l'avenir de la voiture est certain du point de vue de ce besoin-là.
Mathieu Flonneau, ce que j'entends dans ces différentes interventions, c'est évidemment cette question d'une sorte de fracture des mobilités. La fracture, elle est territoriale, on le voit, entre des endroits plus ou moins bien desservis par les différents types de transports en commun et qui obligent parfois et souvent à se reporter vers un transport individuel, donc la voiture pour les distances importantes. Et une fracture sociale et également, puisque on estime, je crois que c'est le Secours catholique qui estimait qu'entre 6 et 8 millions de Français sont ce qu'on appelle des précaires de la mobilité.
Eh oui, il y a des périphéries de la mobilité. Et je partage la plupart des analyses qui ont été évoquées précédemment. Simplement, je serai plus décroissant que les décroissants sur les réserves qu'il faut faire sur la technologie. Je veux bien que dans des nouvelles dites nouvelles technologies, on nous présente un regain de liberté, mais c'est un regain d'aliénation. Il faut regarder les choses comme elles sont. C'est-à-dire que le traçage des sociétés, et l'automobile n'y échappe pas. Et c'est bien l'un des enjeux, justement, de l'ouvrage sur le choc des mobilités. L'automobile n'y échappe pas. Vous avez là une fontaine de jouvence qui peut être une fontaine pétrifiante. C'est-à-dire que ce qui était l'automobile, ce qui faisait dire à Marcel Proust « j'ai envie d'aller au bord de la mer, je prends ma voiture », il le disait, c'est pas le moindre des écrivains. Il exaltait là des sentiments qui ne sont produits, et il avait un grand amour du train, néanmoins le train est sur des rails, il exaltait là des sentiments qui laissaient au libre arbitre individuel, qui est le fondement de l'humanisme, eh bien, une prégnance totale. Et sur la technologie, je réitère ces réserves, c'est-à-dire que un système commercial comme BlaBlaCar, je comprends, mais qu'il s'insère dans toutes les vies et qu'il soit un mode de vie, BlaBlaCar, pourquoi pas, de temps en temps, effectivement. Et puis vous avez donné un argument qui est aussi très important, qui était l'argument générationnel. Et là, je vous renvoie à un ouvrage de littérature, l'ouvrage de littérature de Nicolas Fargue, c'est la France du petit. Et ben, la France du petit, c'est la France qui est réservée aujourd'hui, et il s'arrête à 27 ans. 27 ans, voilà. Alors à 27 ans, vous avez sur votre smartphone toutes les palettes de mobilité. Mais quand vous en avez 60, vous êtes exclu de beaucoup. Et puis effectivement, comme vous l'avez dit, avec les questions de génération, les questions de famille à fonder, bon, il y a quelques réalités qui se réimposent.
Vérena Despousse, vous lirez.
Oui, je rebondis sur le générationnel parce que nous, on est fiers de voir que la partie de notre population de membres BlaBlaCar qui est le plus en croissance, c'est au-dessus de 50 ans. Donc, on est aujourd'hui dans un cas de figure qui englobe toutes les
évolue mais qui reste marginal.
Non, qui l'est de moins en moins. On est quasiment 12% de la population française qui est membre de BlaBlaCar aujourd'hui. Donc on n'est pas sur une tranche d'âge, on est vraiment sur...
Mais sur les 12%, combien de plus de 55 ans, 60 ans?
Et je crois qu'il y a plus de 50% aujourd'hui qui ont au-dessus, je veux pas dire de bêtises, mais au-dessus de 33 ans. Donc on est
33 ans.
C'est pas parce que c'est moins.
Les gens qui ont 33 ans aujourd'hui seront plus âgés plus tard. C'est une lapalissade de le dire.
Donc c'était 50% au-dessus.
Juste une réaction, Christophe Gay, avant de repasser la parole à Jean Viard. Vous savez, on est arrivé un petit peu, peut-être, à ce qui est l'aspect un peu prospectif pour ces dernières minutes de l'émission. Comment ces mobilités vont évoluer? Évidemment, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais aussi dans ce livre que vous avez cité, Choc de mobilité, Mathieu Flonneau avec Stéphane Lévesque. Voilà, il y a cette question de la route intelligente, de la voiture intelligente. On nous parle de la voiture autonome. Enfin, voilà, on voit que arrivent malgré tout des nouvelles façons aussi de se déplacer. Comment est-ce que tout ça, vous l'envisagez, vous qui dirigez, je rappelle, ce forum Vie Mobile qui s'intéresse hein, évidemment à tout cela.
Alors, bon, ce qui est clair, c'est vous venez de l'indiquer, il y a toutes sortes de façons aujourd'hui de renouveler l'avenir de la voiture. D'une certaine manière, la voiture telle qu'on l'a connue, que ce soit dans ses capacités techniques, technologiques, et ou dans les usages qu'on peut en faire, va renouveler la place de la voiture. Donc nous en sommes persuadés. Nous pensons donc que la place de la voiture, la voiture, on va dire, possédée individuellement, va certainement, sinon disparaître, mais être amenée à avoir sa place très fortement réduite. Le nouveau usage de la voiture, pourra-t-on continuer à parler d'ailleurs de la voiture telle qu'on l'a connue, par contre, clairement, ont un futur. Alors, nous, au Forum, ce qui nous paraît important, c'est néanmoins de penser qu'il ne faut pas se focaliser exclusivement, et il ne faut peut-être pas focaliser l'ensemble des ressources publiques sur la continuation du système automobile, même renouvelé. Et il nous semble qu'il est très important de penser la place à d'autres systèmes de mobilité et vraiment de les penser comme des systèmes de mobilité. Et là, je pense en particulier au vélo et à la marche. Il est clair que aujourd'hui, il y a un vrai potentiel de développement pour les déplacements liés au vélo. Tout à l'heure, vous évoquiez la difficulté de transporter des choses en vélo. En réalité, aujourd'hui, il y a des formes renouvelées de vélos, les vélos cargo, qui permettent de transporter ses courses très facilement, de transporter jusqu'à 2 enfants sur son vélo. Et on voit aujourd'hui des gens qui ont adopté des modes de vie fondés sur le vélo. Simplement, aujourd'hui, ce qui manque, c'est une vraie politique systémique qui permettrait, en fait, de sortir de l'anecdote et qui permettrait de, à travers une politique d'infrastructure, une politique de magasins qui permettent de réparer son vélo et de faciliter la vie des gens, finalement, de créer l'équivalent du système qu'on a créé autour de la voiture. Et puis, il y a la question de la marche. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui marchent. On voit qu'il y a un potentiel pour marcher qui est très important. C'est clairement très bon pour la santé. Donc, il y a des enjeux liés de politique de santé. Il y a aussi des enjeux pour réduire la place des investissements, parfois, dans les transports publics. Hein. Nous, on a mené une expérimentation à Bordeaux. Aux heures de pointe, on sait qu'il y a plus de 20% des gens qui prennent les transports publics pour une ou deux stations. Et ben, on en a fait marcher plus de 20%. Et donc, on voit que, tout simplement, en faisant marcher un peu plus les gens, on peut à la fois améliorer les investissements et la santé des gens.
Jean Viard, je parlais nouvelle technologie, route intelligente, et on revient à la marche, au vélo. Finalement, cette mobilité, c'est plus des couches qui s'empilent que une succession, on va dire, de modes qui se remplacent les uns les autres. On voit que l'avion reste marginal.
C'est sûr, de toute façon, tous les trajets commencent par marcher, ne fût-ce que pour aller à sa voiture. Donc, je veux dire, on empile des systèmes. Moi, ce que je trouve, si vous voulez, c'est que le XXe siècle a été fasciné par la mobilité. On a inventé l'automobile, enfin inventé. On l'a généralisé, on a fait le TGV, l'avion est devenu un objet de grande consommation, etc. Dans l'histoire de l'humanité, c'était génial, quoi. Parce qu'avant, les gens, ils partaient pas, ils avaient même pas de vacances. Donc, ils pouvaient même pas partir de chez eux. Donc, effectivement, on a ouvert toutes les portes et on est parti dans tous les sens. Alors, c'est sûr qu'on est dans la période d'après. On voit les effets en termes de pollution, la destruction des territoires, etc. Donc, on essaye de recadrer. Mais je crois que c'est là qu'il faut pas recadrer, j'allais dire, parisien bobo. Il faut recadrer sur l'ensemble des modes de vie possibles.
Rappelle
le
que
mode
vous êtes
de vie
ex.
Vélo. Mais moi, j'habite à la campagne, par exemple. Le premier village est à 5 km de ma maison. Bon, c'est sûr que, à mon âge, le vélo, c'est bien pour descendre la pente, mais pas pour la remonter. Donc, je veux dire, c'est bien. Je ne m'oppose à aucun système. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut regarder ça. Moi, ce que je trouve intéressant en ce moment, c'est tous les endroits où l'usage prime sur la possession. Et ça, je trouve que si vous voulez, que ça soit des modèles comme BlaBlaCar, comme Airbnb, etc., les colocations des jeunes, etc., il y a là des inventions du vivre ensemble, particulièrement chez les jeunes, c'est vrai, qui sont massif. Et donc, la question, c'est comment on va inventer des nouvelles structures culturelles pour effectivement utiliser ou autrement la voiture, voire produire des voitures moins polluantes, mais voire aussi utiliser, effectivement, développer la marche, développer le vélo, etc. Mais il ne faut pas opposer tout ça. Il faut se dire que ça dépend des lieux, ça dépend des groupes sociaux. C'est vrai que les jeunes mamans qui rentrent du supermarché avec leurs enfants, ils ne vont pas non plus... on voit bien qu'il y a des quartiers des villes qui leur sont quasiment fermés parce qu'elles ne peuvent pas se garer pour décharger, etc. Donc, il faut regarder tout ça en essayant de se dire que je crois pas que c'est la mobilité qu'il faut attaquer. Qu'il faille en limiter certaines dimensions, certainement. Mais il faut essayer de la rendre moins polluante, qu'il y ait des modèles différents, qui puissent être très honorables d'aller en vélo ici, en tramway là-bas, en voiture électrique à tel endroit, etc. Et que, si vous voulez, il me semble qu'il faut une pensée de la mobilité comme système positif et écologique, et en même temps il faut le démocratiser. Il ne faut pas oublier les gens qui n'ont pas de mobilité.
On l'a dit plusieurs fois dans l'émission.
Mais c'est très important parce que c'est aussi le cœur souvent des électorats d'extrême droite.
L'enjeu politique est évidemment important.
Et considérable.
En la matière. Voilà. Je voulais juste entendre, puisqu'on arrive au bout de cette émission, malgré tout, Mathieu Flonneau, vous êtes l'historien, mais peut-être vous allez venir à mon secours pour parler un peu d'avenir, de ces voitures, de ces routes intelligentes, de ce véhicule communicant auquel vous vous intéressez dans ce livre Choc de mobilité.
Oui, bah écoutez, il faut y croire raisonnablement et sans naïveté aucune. Et je veux dire par là qu'il faut bien placer le curseur de l'aliénation. Et certes, la société automobile telle que le XXe siècle l'a établie de façon universelle est une société aliénante. Toutefois, celle que l'on nous promet parfois ne l'est pas moins. Et donc ce n'est pas parce que on a un smartphone, que l'on a en permanence d'ailleurs avec soi, on est plus libre. Ça c'était quelque chose à véritablement... Et puis cette économie-là n'est pas forcément plus sympathique. Donc là aussi il faut être extrêmement méfiant. Par ailleurs, sur ce curseur de l'aliénation, j'ajouterai une chose. On l'a évoqué dans les années 60 et quatre fois la voix chaleureuse de Jean Viard l'a dit. Il y a une question d'amour derrière. Alors oui, Paul Delouvrier, qui est le grand organisateur de la région parisienne pendant les Trente Glorieuses, disait que en actionnant tous les leviers de la mobilité, c'est-à-dire les RER qu'il contribue à construire, et puis l'infrastructure routière, il développait chez les gens la liberté de se mouvoir, de résider et d'aimer. Et cette question-là, elle est très importante.
Merci, merci à tous les quatre. Mathieu Flonneau, je renvoie vers le site du Grain à Moudre d'été pour toutes vos bibliographies. Donc Mathieu Flonneau, Christophe Gay, Verena Despousse et Jean Viard qui était en duplex depuis Aix. J'en profite pour remercier les techniciens qui vous ont accueillis à France Bleu Provence, je crois. Merci à tous. Merci aussi à Alexandre Agège, Laurence Genepin, Catherine Donnem et Tanguy Omri qui m'ont aidé à préparer cette émission. À la réalisation, c'était Véronique Villa. À la technique, eh bien, c'est Jean-Guilain Meige. Du Grain à Moudre d'été, c'est donc à réécouter et podcaster sur franceculture.fr.